du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous ai rappelé très régulièrement depuis le début de cette année la réalité de l'importance de la liturgie, de l'importance d'être attentif, de suivre véritablement la messe, de n'être pas à la messe comme des simples spectateurs, assistants, comme si c'était un spectacle quelconque, mais de véritablement faire vôtre les textes, les prières de la messe. En particulier, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'antienne de communion. Cette antienne de communion qui doit résonner dans nos âmes et ne pas être simplement un bruit de fond chanté par la chorale. Dans cette antienne de communion, nous donnons différents titres à Dieu, au Seigneur, en s'appuyant sur le psaume « Dominus firmamentum refugium liberator adiutor » Deus, Meus, voilà tous les titres que nous donnons à Dieu. Dieu est donc notre firmamentum, notre fondement, ce qui nous affermit. Dans firmamentum, il y a le mot firmus, ferme, solide, que nous retrouvons en français, donc ferme. Infirmité également, donc là c'est le primatif. Et donc le bon Dieu est établi ici comme remède finalement à notre infirmité. Firmamentum, Dieu est notre fondement, notre fondation, notre appui par rapport à notre faiblesse. L'important est par conséquent d'être conscient de nos faiblesses, spécialement de nos faiblesses dans l'ordre spirituel, dans l'ordre surnaturel. Qui se croit fort, nous dira bientôt l'apôtre saint Paul dans un de ses dimanches après la Pentecôte, qui se croit fort prenne garde de tomber. Eh bien, justement, nous devons avoir conscience de notre manque de fermeté, de stabilité dans notre vie spirituelle. Et par conséquent, non pas s'appuyer sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sur nos propres intelligences, mais nous appuyer sur Dieu lui-même, sur sa force, sur son intelligence, sur ce qu'il nous enseigne et évidemment sur sa grâce. C'est le premier point. Donc faire sien ces paroles de la communion d'aujourd'hui, c'est bien penser que notre force est en Dieu, que nous sommes tous infirmes et que nous avons besoin de Dieu. En particulier, évidemment, ces paroles sont tout à fait bien utilisées par l'Église à l'occasion de la communion, puisque notre force est spécialement dans notre Seigneur Jésus-Christ, le pain de vie qui est notre nourriture spirituelle et par conséquent qui nous affermit dans la vie spirituelle. Deuxièmement, nous appelons Dieu, le Seigneur, notre refuge. Refugium. Dans refuge, il y a le mot fuite en latin, donc le refuge, c'est ce qui nous protège et c'est ce qui nous protège quand on doit se cacher ou fuir des ennemis en particulier ou des dangers quelconques. Les dangers, nous les connaissons. Ce ne sont pas d'abord les dangers de ce monde. Ce qu'il faut craindre en premier, ce ne sont pas les Russes, les Iraniens ou encore les Américains. Ce qu'il faut craindre en premier, évidemment, c'est de déplaire à Dieu. Et au niveau des ennemis, ce qu'il faut craindre en premier, c'est l'ennemi de notre âme, c'est-à-dire le démon. L'ennemi par excellence, celui qui nous veut du mal, celui qui dresse des embûches sur notre route, sur notre chemin spirituel. Et où est-ce que nous allons trouver un lieu sûr, un abri sûr? Comment être en sécurité ici-bas, du point de vue, bien entendu, surnaturel? sinon en Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on appelle Dieu notre refuge. C'est pour ça qu'en faisant cette prière, en invoquant Dieu comme étant notre refuge, comme le fait ce psaume, eh bien, nous l'invoquons pour qu'il soit spécifiquement notre abri, comme un lieu de sécurité. Il n'y a qu'en Dieu qu'on peut être en sécurité. Vous pouvez fuir dans un autre pays, cela ne sert à rien. Vous pouvez fuir au niveau de vos responsabilités, etc. Cela ne sert strictement à rien. Parce que nous ne pouvons pas fuir au niveau spirituel. Cela est impossible. Nous ne pouvons pas fuir également toutes les tentations, toutes les difficultés de la vie. Cela est impossible. Par conséquent, il faudra se mettre dans un lieu sûr. Et ce lieu, ce n'est autre que le Seigneur lui-même. Le Seigneur qui décide d'ailleurs ou non et comment il souhaite nous protéger. Le Seigneur ne va pas supprimer toute tentation, toute difficulté, toute épreuve matérielle, toute tribulation, absolument pas. Ce n'est pas de cette manière qu'il est notre refuge, pas du tout. Il est notre refuge parce que c'est en lui que nous allons trouver la force, le moyen d'affronter les dangers de la vie, les difficultés de la vie, et spécialement de notre vie spirituelle. C'est en Dieu que nous devons chercher le refuge par rapport aux tentations et aux différents dangers. Bien sûr, j'insiste, je me permets d'insister sur ce fait, puisque malheureusement, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens même, sont obsédés par un certain nombre de dangers réels ou prétendus, qui sont uniquement des dangers extérieurs. On a peur de la maladie, on a peur du Covid, on a peur du vaccin, on a peur de la 5G, on a peur des Russes, on a peur des Américains, des Iraniens ou autres. Et est-ce qu'on a peur de pécher? Est-ce qu'on a peur d'offenser le bon Dieu? Est-ce qu'on a peur par rapport aux tentations? Beaucoup moins. Donc il faut savoir remettre en valeur nos priorités, n'est-ce pas? Et notre priorité, c'est la crainte de déplaire à Dieu et de nous protéger, notamment des tentations. Comment? En nous réfugiant dans le bon Dieu lui-même et donc en le priant. Dieu, troisièmement, est appelé notre libérateur, libérator. Donc dans le mot libérator, il y a le mot liberté, n'est-ce pas, libre. La liberté, évidemment, ce n'est pas cette liberté que nous cherchons, cette liberté qui consisterait à ce que chacun puisse faire tout ce qui lui plaît. Se considérer comme vrai tout ce qui lui plaît, se croire tout ce qui lui plaît, homme, femme, chaise, mammouth ou je ne sais trop quoi, cactus, philodendron, peu importe, on ne sait pas jusqu'où on ira dans ce domaine de la pseudo-liberté. Mais, une fois de plus, ce n'est pas reconnaître où est le véritable esclavage, n'est-ce pas ? Le véritable esclavage, il est justement dans toutes les addictions et notamment dans l'esclavage des sens, dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage de tout ce qui est désordonné et qui est en réalité mauvais usage de notre liberté. Notre liberté n'étant pas là pour que nous fassions ce qui nous plaît, ce que nous voulons. Notre liberté qui est là pour faire ce que nous devons, pour s'ordonner à ce qui est réellement bien. Tout autre usage de notre liberté nous enferme en réalité dans une cage, nous enferme dans cette cage de notre volonté propre par la désobéissance à la loi de Dieu. Combien de... Les adultes sont pratiquement tous comme ça aussi. Les adolescents, oui, la crise d'adolescence, c'est ça, je veux m'affranchir de la loi des parents, je veux m'affranchir de la loi de Dieu, etc. Je veux être libre, prendre mon indépendance. Libre, ce n'est pas ça, être libre. Être libre, c'est ordonner notre volonté, notre être à sa fin qui est Dieu lui-même. Par conséquent, il n'y a que Dieu lui-même qui peut être notre libérateur. Il est notre libérateur parce qu'il est notre rédempteur. Rédempteur, c'est celui qui nous rachète justement de l'esclavage. De quel esclavage? De cet esclavage du péché. C'est ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ par son incarnation, par sa vie, par sa passion, par sa résurrection. Notre Seigneur Jésus-Christ nous mérite toutes les grâces nécessaires pour sortir de l'esclavage du péché. Cet esclavage du péché, c'est ce dont nous ferons sortir après la messe ce petit bébé, n'est-ce pas? On trouve les bébés tout beaux, tout mignons, etc. Pourtant, ce sont des esclaves quand ils naissent, et ils sont laids quand ils naissent. Je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps, c'est une réalité qui doit que le chrétien doit voir. Tant que l'enfant, le bébé et évidemment l'adulte, a fortiori, n'est pas baptisé, il est sous l'emprise du démon. Il est esclave du démon. Et donc, le baptême est absolument nécessaire pour tout homme afin d'être sauvé. Ce n'est pas une question d'assimilation à une société, à la société qu'est l'Église, primordialement. C'est l'application des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous libérer du péché originel, et par conséquent nous rendre effectivement enfants de Dieu et de l'Église. C'est ça la véritable liberté, la véritable libération. Mais le baptême n'est qu'un début, et pour chacun d'entre nous, il faut rester conscient de cette possibilité, malheureusement, même si nous sommes baptisés, de revenir dans cette cage du démon par nos péchés, par notre volonté propre, par nos désobéissances à la loi de Dieu, par cette volonté de ne dépendre que de nous-mêmes et de ne pas dépendre de Dieu. Et c'est finalement la dernière appellation que nous donnons au Seigneur aujourd'hui, c'est-à-dire adiutor, aide. Le Seigneur est notre aide. Il nous faut une aide dans la vie spirituelle. Il nous faut une aide parce que nous sommes dépendants. Nous sommes infirmes, nous ne sommes pas en sécurité, nous sommes ou nous étions esclaves, nous avons tendance à retourner à ces esclavages, servitudes, et donc nous sommes dépendants de Dieu. Là aussi, la société moderne prétend à une indépendance totale des individus, une indépendance sur toute chose, et même les chrétiens veulent être indépendants. Aller à la messe comme ils veulent, quand ils veulent, faire ce qu'ils veulent, recevoir les sacrements comme ils veulent, quand ils veulent, écouter, suivre les catéchismes, etc., de manière totalement indépendante, mener leur vie chrétienne de manière indépendante. Il faut surtout rien leur dire, parce que sinon ils s'offusquent. Il ne faut pas leur rappeler la loi de Dieu, il ne faut pas leur rappeler leur dépendance intellectuelle vis-à-vis de Dieu, de la foi, vis-à-vis de la Sainte Église, de son magistère. Il ne faut pas leur rappeler leur dépendance par rapport au sacrement, justement, du jugement même du prêtre, notamment dans la confession. Non, l'homme veut être totalement indépendant, et volens, nolens, que nous le voulions ou non, malheureusement, nous sommes tous plus ou moins infectés par cet esprit d'indépendance, chacun voulant mener sa vie spirituelle, chrétienne, ou même sa vie tout court, indépendamment de Dieu, sans considérer en fait que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de son aide. Nous ne pouvons rien faire sans lui. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il l'a dit d'une façon extrêmement claire. Sine me, nihil potestis facere. On ne peut pas faire plus clair. Il n'y a aucune parabole, aucune image, aucune métaphore ou autre exercice de style. Sine me, sans moi, nihil, rien, potestis, facere. Rien, vous ne pouvez faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair, c'est net, c'est précis. Rien, on ne peut rien. Donc, il faut se raccrocher à notre Seigneur Jésus-Christ. L'exemple qui nous est donné, il nous est donné aujourd'hui par la Sainte Église. Les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ qui s'approche d'eux, il y a tellement de monde pour l'écouter au bord de ce lac de Génézareth que il est obligé de monter sur une des embarcations des apôtres, hein, Pierre, André, Jacques, Jean, ils étaient pêcheurs, comme nous le rappelle l'Évangile. Donc ils possédaient ces embarcations. Notre Seigneur se met un peu à l'abri de la foule et prêche depuis la barque. Et quand il a terminé son sermon, son discours, il dit aux apôtres, allez-y, allez en pleine mer, allez au large et commencez à pêcher. Alors, ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir. Ils étaient allés aux endroits qu'ils connaissent par cœur, où ils sont censés trouver du poisson. Ils ont pêché la nuit parce que c'était plus favorable, etc., etc. Et pourtant, ils n'ont rien pêché. Rien. Ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir, ils n'ont été capables de rien. Notre Seigneur veut leur donner une leçon. C'est que même dans la vie quotidienne, même pour les choses habituelles, même si nous avons des capacités, même physiques, même dans les choses de ce monde, sans Dieu, on ne peut rien faire. Même pour les réalités naturelles, même si on est doué pour ceci ou pour cela, les choses, d'une manière ou d'une autre, peuvent ne pas tourner comme on l'espérait. C'est ça que veut montrer notre Seigneur Jésus-Christ. Mais par contre, avec lui, avec son aide, eh bien, les choses vont tourner correctement. Et même dans l'ordre des choses matérielles, hein, puisque là, il s'agit de poissons. Allez-y, jetez votre filet. Et là, le filet est tellement rempli de poissons qu'il commence à craquer. On met les poissons, on a deux barques, et les barques, eh bien, l'eau, elle arrive là où on a peur de faire boum, 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 de couler, tellement il y avait de poissons dans les barques. Et cependant, les apôtres ne se trompent pas. Ce qu'ils voient, ce n'est pas ce que Dieu leur a donné. Ce qu'ils voient, c'est notre Seigneur. Saint Pierre, effrayé, dit « Éloignez-vous de moi, on n'est pas digne de recevoir de telles grâces. » Pourtant, c'était vraiment matériel. Mais il voyait l'intensité du miracle. Jamais ils n'avaient pêché autant de poissons de toute leur vie. Qu'est-ce qu'ils font rentrer au port? Ils laissent tout, leur pêche miraculeuse, leurs centaines de poissons, leurs deux barques, leur père même, pour Saint-Jacques et Saint-Jean, ils laissent tout pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'aide, elle est là. Elle est en notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, si notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous, comme le dit encore une fois la Sainte Écriture, qui est contre nous, comme le dit l'apôtre Saint-Paul. Il faut donc chercher notre aide en Dieu. Non seulement quand c'est difficile, quand on a des difficultés, c'est ça le problème. Les fidèles, les personnes même qui ont un tantinet de foi, de vie spirituelle, dès qu'ils ne pensent, ils pensent au bon Dieu, surtout pour lui demander son aide, quand ils en ont besoin. Mais est-ce qu'ils la demandent au quotidien, pour toutes les choses du quotidien? Est-ce qu'on le remercie suffisamment pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il nous apporte chaque jour? Et puis évidemment, pire, ceux qui se souviennent de Dieu uniquement quand il y a des épreuves. Ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? C'est un blasphème, cela. Parce que si Dieu vous disait, ah, qu'est-ce que vous avez fait ? Allez. Et si Dieu vous montrait tous vos péchés, tous vos manquements, alors, à mon avis, vous fermeriez évidemment votre bouche. Vous seriez confondu, comme le dirait la Sainte Écriture. Donc faisons attention. Nous recevons tellement de Dieu. Nous recevons son aide en permanence, au quotidien, même d'un point de vue naturel. C'est lui qui nous maintient même dans l'existence. Et évidemment, d'un point de vue surnaturel. Donc, là aussi, il faut invoquer Dieu comme étant notre aide. Voilà la leçon de cette communion à appliquer particulièrement aussi dans le contexte de la communion à notre Seigneur Jésus-Christ en tant que nourriture spirituelle, bien entendu. Dominus Deus Meus, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu bon, un Dieu rédempteur, un Dieu qui nous aide. Donc, mes bien chers frères, nous nous sentons infirmes, faibles, appuyons-nous sur la force de Dieu. Nous ne nous sentons pas en sécurité, appuyons-nous sur Dieu qui est notre refuge. Nous avons la crainte de retourner à l'esclavage du démon par le péché, par les mauvaises habitudes. Appuyons-nous sur notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Libérateur. Et de façon générale, considérons Dieu comme étant notre aide. Nous dépendons de lui et c'est bien de dépendre de Dieu. Il faut aimer dépendre de Dieu. Il faut vouloir dépendre de Dieu et donc vivre sous Dieu avec son aide, son secours et s'en référer en permanence dans notre vie comme nous le rappelait autrefois dans toutes nos maisons ces Dieu, ces cadres avec marqué Dieu seul. Parce que Dieu seul, effectivement, comme le disait Sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul nous suffit. Dieu est notre firmamentum, notre fondement, notre refuge, notre libérateur, notre aide, notre Seigneur, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.